Bonjour et bienvenue dans Bon Baiser du Chien, le podcast d'Audrey Ventura, Sinoconsulte. Avant de débuter, sachez que vous pouvez vous procurer le livre d'Audrey Ventura, Le chien, cet animal qui nous échappe, sur internet ainsi que dans tous les lieux de dépôt qui figurent sur la page Facebook de Sinoconsulte. Disponible un peu partout en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse ou même au Québec, le livre connaît un grand succès auprès de ses lecteurs et lectrices, alors courez sur la toile pour vous le procurer. Ce podcast n'a d'autre objectif que d'élargir le cercle des lecteurs et auditeurs afin de permettre à un maximum de personnes d'avoir accès aux articles écrits par Audrey. Ainsi que vous soyez au volant ou dans les transports en commun, vous avez désormais la possibilité non pas de lire, mais d'écouter les articles d'Audrey Ventura. Je ne vous fais pas plus attendre et je vous laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Le besoin et l'envie, leçon sur les patrons moteurs. Ce sujet est motivé par une croyance qui a la dent dure, celle qui consiste à penser que pour faire disparaître un comportement dérangeant chez un chien, il suffit d'empêcher ou de réprimer l'expression de ce comportement. Ainsi, avec le temps, celui-ci devrait disparaître, s'éteindre. Il y a ici confusion entre l'envie et le besoin. Si une envie peut être assez rapidement oubliée, un besoin ne le peut pas. Et très souvent, les comportements gênants du chien répondent à des besoins logés dans des patrons moteurs. Le chien veut tout poursuivre, tout capturer, tout ramasser, tout mordre, tuer des proies, contrôler les mouvements, tout protéger, etc. Qu'est-ce qu'un patron moteur? Ce terme définit une posture en mouvement ou une suite de mouvements coordonnés formant un comportement, une conduite, qui se trouve naturellement dans le répertoire comportemental du chien, son éthogramme. Cela signifie que le chien n'a pas besoin d'apprendre cette conduite, elle est innée. Par exemple, chez le chien, les différentes étapes de la séquence de chasse sont composées de plusieurs comportements qui sont autant de patrons moteurs irrépressibles. L'orientation, la fixation, la traque, la poursuite, la capture, la morsure pour tuer, l'ingestion immédiate ou le dépeçage de la proie avant ingestion ou l'enterrement de la proie pour une ingestion ultérieure. Cette séquence comportementale, présente chez tous les prédateurs de ce monde, est également présente chez Canis familiaris, notre chien domestique. Mais à cause de la sélection des races opérée par l'homme il y a des siècles, cette séquence est devenue incomplète. Certains comportements ont été sélectionnés pour certaines races, car considérés nécessaires pour certaines activités, comme par exemple la poursuite, et d'autres ont été écartés par la sélection, comme la morsure pour tuer, car inutile ou gênante. Tout ceci afin de faire du chien un animal domestique, utile et docile, capable de remplir des missions précises pour l'homme. Ainsi, il est essentiel de saisir qu'absolument tous les comportements du chien, qu'ils soient gênants, dangereux ou désagréables, sont bien souvent le résultat de la sélection génétique que l'homme a effectuée sur l'espèce entière. Il est donc tout à fait vain de se battre. Le salut n'est pas dans l'inhibition, mais dans l'encadrement et la gestion des comportements. Les chiens sont trop régulièrement mis sous pression, à cause soit de la tentative totalement vaine d'inhiber un comportement issu d'un patron moteur génétique, soit de l'interdiction que l'on s'impose d'utiliser des moyens simples permettant au chien d'exprimer sa génétique de manière acceptable pour l'humain et saine pour lui. Il est donc devenu courant d'entendre qu'il ne faut pas permettre au chien de capturer un frisbee, de poursuivre une balle, permettre au chien et à son humain de jouer à mordre une corde à nœud, permettre au chien de participer à des courses-poursuites avec d'autres chiens, permettre au chien de ronger des os, de chasser, de protéger, etc. Quelle est la justification à toutes ces interdictions qui empoisonnent autant la vie du chien que celle de sa famille? Ces activités seraient de nature à aggraver les comportements problématiques. C'est un raisonnement simpliste. Un retour sur les bases s'impose. Si le comportement est gênant, c'est qu'il s'est déjà exprimé. S'il a pu s'exprimer, c'est que le chien en possède le patron moteur. A contrario, un chien qui, par exemple, n'a pas le patron moteur de la poursuite de prédation ne l'exprimera pas. Partant de là, il est indispensable de se rappeler qu'il est impossible de réprimer un comportement inné, comme il est impossible de le faire apparaître chez un chien et de le transformer en besoin. Vouloir réprimer un comportement inné, c'est oublier la fonction première de tout comportement qui consiste à s'adapter. En somme, si un chien se comporte d'une certaine manière, c'est qu'il en a besoin et que dans l'état actuel des choses, il ne peut pas faire autrement. Le patron moteur s'impose au chien. Il s'impose à son humain et au reste du monde. Ainsi, le patron moteur cherchera toujours son autosatisfaction. S'il est inhibé, c'est une adaptation de ce même patron moteur qui s'imposera à nouveau. En gros, si vous tentez d'étouffer un comportement logé dans un patron moteur, il ressortira de plus belle là où vous ne l'attendiez pas. C'est un peu l'image de ce jeu d'arcade qui consiste à assommer avec un marteau la grenouille qui sort d'un trou, mais qui ressurgira plus vite d'un autre trou si vous la touchez, et ainsi de suite, de plus en plus rapidement. C'est drôle, mais ça permet de comprendre qu'un comportement inné annihilé, c'est un comportement inné qui reviendra hypertrophié. Voici un exemple concret. Votre jeune chien, quelle que soit sa race ou son croisement, peut, ou pas, avoir besoin de poursuivre. Ce besoin est irrépressible, ou absent, ou peu présent. Cela dépendra de l'incidence et de l'intensité du patron moteur de poursuite dans sa lignée. Votre chien est né avec lui, ou sans lui. Personne ne lui a mis cette idée dans la tête dans les premières semaines de vie, et personne ne lui a enlevé à la naissance s'il en est dépourvu aujourd'hui. En d'autres termes, si votre chien ne poursuit pas le mouvement, c'est qu'il n'en a tout simplement pas l'instinct ou le besoin génétique. L'éducation que vous lui avez donnée n'y est pour rien, le patron moteur n'est pas une habitude apprise avec le temps à cause de vous ou disparue avec le temps grâce à la manière dont vous avez éduqué votre chien. Ainsi donc, un chien ne peut pas devenir prédateur à cause d'une balle ou d'un frisbee, et s'il est prédateur, il le restera. Un jour, vous constatez avec stupéfaction qu'en pleine puberté, votre chien se met soudainement à poursuivre des vélos. Vous observez qu'il ne poursuit rien d'autre que des vélos et les balles que vous lui lancez quand vous jouez avec lui. D'ailleurs, il adore ça. Il aime tellement jouer à la balle que vous vous dites que c'est à cause de vous si aujourd'hui, votre chien poursuit les vélos. C'est qu'il a pris goût à la poursuite à cause de ses balles, ou sans penser que vous en êtes la cause, vous avez peur d'empirer le problème. Vous le rattachez, et alors même que vous aviez déjà constaté que quand vous emportez des balles en promenade, votre chien s'intéresse beaucoup moins au vélo, vous décidez d'arrêter drastiquement tous les jeux de poursuite. Quel dommage! Non seulement vous venez de vous priver de l'un des meilleurs moyens d'apprendre à votre chien à laisser les vélos tranquilles, mais en plus, vous cherchez à étouffer un comportement génétique, ce qui vous place sur une voie sans issue et un aller simple vers l'hypertrophie comportementale. Quelles seront les conséquences de l'étouffement de la génétique? Votre chien ne poursuivait que les balles et les vélos, mais totalement privé d'exprimer un comportement ancré dans son ADN, comme l'est la couleur de son poil ou la longueur de sa queue, un jour, sans crier gare, il part à la poursuite d'un enfant qui court, et sous vos yeux horrifiés. Le patron moteur s'est adapté. Il s'agit du même comportement de poursuite exprimé par un autre moyen, puisque les vélos et les balles sont désormais inaccessibles. Le besoin comportemental irrépressible, car génétique, s'est déplacé pour rechercher son autosatisfaction dans l'environnement. Et là, il est fondamental de comprendre. Soit vous vous donnez les moyens de satisfaire la génétique de votre chien par une activité à votre portée, menée toute sa vie de manière encadrée par vous, soit vous laissez votre chien à l'œuvre, et souvent, il s'y prendra très mal, usant des moyens présents dans l'environnement pour assouvir une génétique envahissante. Ici, les enfants, demain, tous les humains qui courent. En résumé, si un chien n'en a pas la génétique, il ne deviendra pas prédateur parce qu'il joue à la balle. En revanche, le chien prédateur peut apprendre, avec vous, à gérer ses besoins de poursuite en les réorientant, par exemple, sur un jeu de balles bien encadré, ou en rencontrant régulièrement des chiens aimant les jeux de course-poursuite, avec changement de rôle et pose bien marquée. Le besoin génétique doit être identifié, nourri de manière encadrée et structurée avant tout apprentissage, en désensibilisation ou en contre-conditionnement. Il ne doit jamais être empêché au risque que le chien devienne hors de contrôle. L'empêchement systématique des besoins naturels logés dans les patrons moteurs peut rendre le chien obsessionnel. Il ne pense plus qu'à ça. Il s'élance sur tout ce qui se déplace alors qu'avant, il ne chassait que des vélos. Souvenez-vous de l'image du jeu du tape-grenouille. Faites sortir un patron moteur par la porte et il reviendra par la fenêtre. C'est l'exemple ô combien désolant d'un berger qui poursuivait sa propre queue à force de ne rien avoir à poursuivre. Oui, réprimer un comportement génétique peut aller jusqu'à la stéréotypie. En pratique, comment faire? Il faut retenir que pour qu'un chien puisse accueillir et retenir un apprentissage, ses patrons moteurs génétiques problématiques doivent être satisfaits avant tout ajustement comportemental, toute désensibilisation progressive ou tout contre-conditionnement opérant. C'est un prérequis indispensable. Pour pouvoir apprendre à ne plus le faire, votre chien aura besoin de le faire. C'est donc en partie en poursuivant des balles, mais pas n'importe comment, et ses copains chiens, mais pas n'importe lesquels, que le chien pourra apprendre à ne plus poursuivre des vélos, des voitures, des joggeurs ou des enfants qui courent. Et c'est en partie en mordant dans des os ou des balles en caoutchouc ou un tug à poignet, mais pas n'importe comment, que le chien peut apprendre à ne pas mordre ses congénères ou les humains ou à ne pas détruire son environnement. Dans le cadre d'une rééducation suivie et cohérente, il est possible d'avoir recours à des séquences courtes de poursuite de congénères. Ces séquences de jeu devront absolument comporter des phases d'immobilité, des pauses et des échanges de rôle poursuiveur-poursuivi. Ainsi, votre chien décharge ses besoins de poursuite et de contrôle. Il est ensuite disponible pour travailler la désensibilisation au mouvement, la réorientation spontanée et la maîtrise de lui-même. Il est aussi conseillé d'avoir recours à des séquences courtes de jeux de balle qui comporteront à chaque fois un début et une fin annoncés, c'est le on-off. Le lancer de balle que votre chien aime tant va vous permettre de récompenser très judicieusement ses renoncements à s'élancer sur le mouvement ou ses réorientations spontanées. Ici, vous le récompensez à la hauteur de ses motivations génétiques et ça vaut tout l'or du monde. Idem pour les jeux de tiraillement dans une corde à nœuds. Ils devront toujours comporter un début et une fin clairs et fermes. Un conseil d'ami. Dans le choix de la réorientation du patron moteur dérangeant, pensez toujours à long terme. L'activité de substitution que vous allez proposer à votre chien doit vous être facilement accessible, et ceci toute sa vie. C'est pour cette raison qu'il est déconseillé aux particuliers d'avoir recours à la mise au troupeau pour les chiens qui veulent conduire le mouvement, ou la poursuite à vue sur l'heure pour les chiens prédateurs, ou au ring pour les chiens qui ont du mordant. Choisissez toujours un loisir simple, une activité disponible régulièrement et surtout peu coûteuse. Ainsi, vous serez en mesure d'encadrer réellement les comportements de votre chien. En parallèle, le développement des autocontrôles émotionnels et comportementaux sera placé en priorité et toujours travaillé en situation réelle. Et évidemment, le chien aura quotidiennement des balades apaisantes où il pourra flairer, marquer et explorer l'environnement naturel librement. À l'avenir, si une personne vous affirme que vous aggravez les comportements de votre chien en jouant à la balle avec lui, il ne peut y avoir que deux explications. Soit vous vous y prenez mal et cette personne constate qu'au lieu de structurer votre chien, vous l'excitez. Dans ce cas, demandez-lui comment vous y prendre. Soit cette personne confond besoin et envie. Elle croit que le comportement de poursuite exprimé par votre chien lui passera si on lui cache ses balles et si on l'empêche de poursuivre. Dans le premier cas, écoutez-la attentivement. Dans le second cas, bouchez-vous les oreilles. Voilà, cet épisode est terminé et si vous êtes encore là, c'est que la lecture vous a plu. Nous vous remercions pour votre écoute et vous invitons à partager ce podcast au plus grand nombre. Excellente journée à tous et à très bientôt pour une nouvelle lecture d'Audrey Ventura de Cynoconsulte.